Voix Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Brazzaville. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, décès de l'ancien numéro 2 des services de renseignement au Congo-Brazzaville. Mise en place de l'accord de paix au Mali, les autorités intérimaires doivent s'installer à Kidal. Les producteurs de cacao sont en colère en Côte d'Ivoire.
C'est vraiment déplorable. Alors le mot d'ordre de grève est maintenu, ça ne fait que commencer.
La Gambie se prépare à l'investiture d'Adama Barrow demain.
Jusque-là, ça se passe bien. La paix est revenue à Banjul et les populations sont contentes.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nous ouvrons l'édition avec l'annonce du décès de l'ancien numéro 2 des services de renseignement au Congo-Brazzaville, le colonel Marcel Tsourou, ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité du Congo, condamné à des travaux forcés à perpétuité en 2014. Il est décédé à la suite d'un malaise à l'hôpital militaire de Brazzaville. Plus de détails avec notre correspondant Nguela Ngoussou.
À la nouvelle de la mort de Marcel Tsourou, le centre-ville a été vidé. Les écoles ont préféré renvoyer les élèves. Les administrations, à commencer par le tribunal de grande instance de Brazzaville, ont été fermées. Tout le monde s'est précipité à rentrer. D'après le directeur général de l'hôpital militaire de Brazzaville, le général Ibata, Marcel Tsourou est effectivement arrivé mort à son établissement sanitaire. Une mort par arrêt cardiaque confirmée par la suite par le procureur de la République de Brazzaville. Ce dernier a aussitôt ouvert une enquête contre Franck Mbani, le neveu du colonel Tsourou, qui partageait la cellule avec lui, lui aussi condamné dans l'affaire des explosions du 4 mars. La sérénité est relative à Brazzaville et la sécurité maintenue par une présence militaire conséquente. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Dans le nord du Mali, les autorités intérimaires prévues pour l'accord de paix de 2015 sont déjà connues. Elles doivent être installées à partir de demain à Kidal, bastion de l'ex-rébellion. Un nouveau calendrier établi le 10 février pour la mise en application de cet accord prévoit également les patrouilles mixtes. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
On peut dire que les recommandations de la deuxième réunion de haut niveau du comité de suivi pour l'accord et la réconciliation au Mali se concrétisent. La recommandation principale est en cours d'exécution. Il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires, car l'ex-rebelle et non moins déserteur de l'armée malienne, Hassan Ag Fagaga de la SEMA, a été désigné président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. À Gao, c'est Djibrila Maïga de la plateforme qui a été choisi comme président, alors qu'à Tombouctou, c'est le jeune Boubacar Ould Amadi de la SEMA qui prendra les rênes. Dans la région de Menaka, les autorités intérimaires seront présidées par un autre jeune du MSA. Il s'agit d'Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed. Les autorités intérimaires de Taoudéni, quant à elles, seront dirigées par Aoumoudi Sidi Mohamed. Sa proposition a été faite par la partie gouvernementale. Ainsi, le samedi prochain, le ministre de la décentralisation doit se rendre à Kidal pour installer Hassan Ag Fagaga dans ses fonctions. Puis le dimanche, ça sera le tour de Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed à Menaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Sénégal a appelé aujourd'hui ses pêcheurs, qui ne sont pas en règle en Mauritanie, à ne plus pêcher dans les eaux de ce pays voisin pour éviter des incidents. Cet appel a eu lieu après un récent incident maritime au cours duquel des gardes-côtes mauritaniens ont tiré sur des pêcheurs sénégalais en blessant certains. Une nouvelle réglementation mauritanienne concernant les pêcheurs étrangers est entrée en vigueur début février. Au Nigeria, nouvelle vague d'attentats suicides de Boko Haram. C'est des attentats qui ont ciblé un camp de déplacés du nord-est. 7 kamikazes se sont fait exploser hier, tard dans la soirée, à Maïdougouri. Le point avec Dilly Diko.
Parmi les 7 kamikazes figuraient 6 femmes. Les attaques ont eu lieu près du camp de Mouna, accueillant des milliers de déplacés et selon les responsables des services d'urgence, elles n'ont pas fait de victimes. Les assaillantes ont tenté d'agir peu après 23h30, heure locale, alors que le couvre-feu dans la capitale de l'État du Borno, fief du groupe djihadiste Boko Haram, débute à 22h. Selon Mohamed Canard de l'Agence nationale de gestion des urgences, le 7e kamikaze qui avait déposé les 6 femmes en voiture a tenté de foncer vers un barrage militaire, mais il a été tué avant d'atteindre sa cible. Ces tentatives d'attentat sont survenues après le départ d'une délégation de diplomates venue à Maïdougouri en amont d'une conférence prévue à Oslo le 24 février pour lever des fonds en faveur des déplacés du conflit du nord-est du Nigeria.
Environ 500 migrants venus d'Afrique subsaharienne ont pénétré aujourd'hui dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. En franchissant une clôture de 6 mètres de haut, cette entrée massive intervient au moment où Rabat menace de ne plus contrôler les flux migratoires si un différend agricole avec l'Union européenne n'est pas réglé. Jacques Aristide.
Les images passent en boucle sur les chaînes internationales, des dizaines de migrants dans les rues de Ceuta criant liberté. Les 498 migrants se trouvent désormais dans un centre de rétention, d'après la préfecture de la ville. Pour sa part, le Maroc affirme que 110 migrants ont été interpellés et fait état de 20 blessés. À Ceuta, 2 migrants ont été hospitalisés. L'Espagne est régulièrement critiquée pour envoyer immédiatement au Maroc les migrants, une procédure qui les prive de la possibilité de déposer une demande d'asile. Mais Rabat récemment averti vouloir relâcher la surveillance de ses frontières en raison de son litige avec Bruxelles sur l'interprétation d'un contrat de libre-échange sur les produits agricoles et de la pêche, un désaccord sur fond des produits venus du Sahara occidental, dont l'indépendance est réclamée par le Front Polisario. Mécontent du blocage, le gouvernement marocain a prévenu que l'Europe s'exposait à un véritable risque de reprise des flux migratoires que le Maroc a pu contenir, dit-il.
En Tunisie, 2 djihadistes présumés ont été tués par l'armée tunisienne lors d'une opération dans la zone montagneuse de Kasserine, dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Le mont Samama est voisin du mont Shaambi, considéré comme la principale base arrière du maquis djihadiste à la frontière algérienne. Au Soudan du Sud, le ministre du Travail a annoncé sa démission pour rejoindre l'opposition. Gabriel Diop-Lame a affirmé sa pleine allégeance à Riek Machar. Le ministre de l'Information a déclaré que cela n'aurait aucun impact, qu'il s'agissait juste d'un comportement individuel. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile depuis 3 ans. La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a fait une déclaration étonnante. Même s'il décédait, son mari, Robert Mugabe, serait réélu aux prochaines élections en 2018, a-t-elle déclaré. À 51 ans, Grace Mugabe est depuis 2 ans la patronne de la Ligue des femmes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Cette position en fait une des favorites à la succession de son mari, même si elle nie publiquement toute ambition présidentielle. Et puis, accident dans une mine en Tanzanie, 2 mineurs ont été tués et au moins 3 sont portés disparus après l'effondrement de leur puits dans une mine d'or à Buemba, au bord du lac Victoria.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Lors d'un forum annuel sur la sécurité à Munich, la ministre allemande de la Défense a mis en garde vendredi les États-Unis contre tout discours pouvant menacer la cohésion de l'Union européenne et contre un rapprochement avec Moscou sur le dos de ses alliés. Plus de détails avec Saloua Jaafari.
Ursula von der Leyen n'a pas mâché ses mots. Pratiquement tous ses messages étaient adressés à son invité américain Jim Mattis.
Il ne peut y avoir d'équidistance entre la confiance accordée à un allié et envers ceux qui mettent en question nos valeurs.
La ministre de la Défense fait référence à la Russie. Pour elle, Washington ne devrait pas accorder la même confiance au Kremlin. Avant sa prise de fonction, Donald Trump avait placé sur un pied d'égalité la Russie de Vladimir Poutine et l'Allemagne d'Angela Merkel. Présent à Munich, le secrétaire d'État à la Défense, Jim Mattis, s'est voulu rassurant.
La relation transatlantique demeure le meilleur rempart contre l'instabilité et la violence. Et je suis sûr que nous allons renforcer nos partenariats.
Même tonalité du côté d'une réunion ministérielle du G20, les États-Unis ont semblé tempérer les velléités de rapprochement avec Moscou, alors que le conseiller à la sécurité de Donald Trump vient de démissionner pour avoir menti sur ses contacts avec la Russie.
Le Pakistan a durci sa sécurité au lendemain d'un attentat suicide qui a coûté la vie à au moins 88 personnes, dont une vingtaine d'enfants, dans un célèbre sanctuaire soufi dans le sud du pays. Les autorités pakistanaises ont affirmé avoir tué plus de 100 terroristes. Le soufisme, branche mystique et tolérante de l'islam, est considéré comme hérétique par certains groupes islamistes radicaux. Manifestation silencieuse à Bagdad, une semaine après des heurts meurtriers, des milliers de manifestants se sont rassemblés place Tahrir, essentiellement des partisans de l'influent chef chiite Moqtada Sadr. Ils réclament des réformes sur la loi électorale. Les autorités d'Istanbul ont donné le coup d'envoi de la construction d'une grande mosquée sur l'emblématique place Taksim, un projet dénoncé par ses opposants comme un symbole de l'islamisation croissante de la Turquie. La mosquée, la première construite sur la place Taksim, se dressera juste à côté d'une église orthodoxe, symbole de l'extraordinaire tolérance de cette ville, selon le maire d'Istanbul. Et puis en Syrie, le groupe djihadiste Young al-Aqsa aurait exécuté 41 combattants de l'ex-branche Al-Qaïda. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Le FMI note des perspectives de croissance favorables pour l'UMOA. La croissance du PIB atteindra 6,5% pour la région et l'inflation reste faible avec un déficit budgétaire global de 4,5% du PIB en 2016. Le Fonds monétaire international se félicite de l'engagement du comité de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest à augmenter le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal ainsi que la fixation des limites plus strictes à l'accès à ce guichet. Les cours des matières premières alimentaires ont accentué leur repli cette semaine. Le cacao atteint ses plus bas niveaux en plusieurs années, toujours lesté par une offre surabondante. D'après l'AFP, les cours de la fève brune ont poursuivi leur dégringolade cette semaine, tombant mercredi à New York à son niveau le plus faible depuis fin octobre 2008 à 1890 $ la tonne.
Et maintenant, la page. Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Le sélectionneur du Cameroun dément les rumeurs de son départ.
Annoncé en Afrique du Sud, le sélectionneur du Cameroun affirme depuis Yaoundé ne pas vouloir quitter son poste actuel, tout en reconnaissant que sa candidature a bien été déposée à Pretoria auprès de la Fédération sud-africaine. Affaire à suivre.
Match amical signé entre la Mauritanie et le Bénin.
La Mauritanie et le Bénin s'affronteront en match amical le 24 mars prochain. Nouakchott a fait savoir à la Fédération mauritanienne de football. Pour rappel, la Mauritanie affrontera dans le groupe I le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana, tandis que le Bénin sera opposé à l'Algérie, au Togo et à la Gambie dans le groupe D.
Tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions ce week-end.
Dimanche, l'AS Vita Club jouera contre les Royals Leopards. Après sa victoire à l'aller, le Coton Sport Garoua a un avantage de 2 buts contre l'Atlabara FC. Les Léopards de Dolisie avaient dominé l'UMS de Loum, 1-0 à l'aller. Et puis le Stade Malien devra remonter 1 but de retard à Bamako face au Barack Young Countrywallers.
On joue aussi en Coupe de la Confédération.
Après le match nul 0-0 à l'aller au tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération, le FC Renaissance jouait sa qualification ce vendredi au Stade des Martyrs de Kinshasa et les Congolais l'ont emporté 1-0 face au club congolais du FC Akanda. Ils sont donc qualifiés. Quant à la JS Kabylie, battue 3-0 à Monrovia à l'aller, parviendra-t-elle à inverser la tendance? Même question concernant le club athlétique Renaissance Aiglon qui doit effacer une défaite 3-0 face au Maghreb de Fès.
Quelques résultats de la Ligue Europa hier soir.
Victoire éclatante de la Roma face à Villarreal, 4-0. Grâce à un triplé de Zlatan Ibrahimovic, Manchester United a pris une très grosse option sur les huitièmes de finale en battant Saint-Etienne 3-0 à Old Trafford. Vainqueur logique 2-0 de Saint-Pétersbourg, les Belges d'Anderlecht ont fait un grand pas vers la qualification, tout comme Schalke 04 qui a sèchement battu le PAOK Salonique à l'extérieur 3-0 et le Beşiktaş face à l'Apoel Beersheva 3-1.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket du continent nord-américain.
Ouais, les Chicago Bulls ont coiffé sur le fil les Boston Celtics 104 à 103 grâce à leur joueur vedette Jimmy Butler, auteur de 29 points. Une seule autre rencontre était au programme de la soirée. Elle a permis à Washington, vainqueur d'Indiana dans sa salle 111 à 98, de confirmer sa montée en puissance.
Merci Nicolas. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Et nous partons en Gambie où une cérémonie d'investiture en grande pompe est prévue demain à Banjul pour célébrer le nouveau président Adama Barrow qui a prêté serment il y a près d'un mois à Dakar au Sénégal. Cette cérémonie va coïncider avec le 52e anniversaire de l'indépendance du pays qui a été dirigé pendant 22 ans par Yahya Jammeh. Plusieurs chefs d'État seront de la partie. Abdourahman Dia.
Adama Barrow, qui avait remporté le scrutin présidentiel du 1er décembre 2016, s'était contenté d'une modeste cérémonie de prestation de serment à l'ambassade gambienne à Dakar, le temps pour la CEDEAO de continuer à mettre la pression sur Yahya Jammeh, qui refusait toujours de céder le fauteuil présidentiel. Mais avec l'exil de ce dernier en Guinée équatoriale, Adama Barrow tient à remercier le peuple gambien et la CEDEAO avec cette nouvelle prestation de serment public et populaire. Mais a-t-il des raisons de célébrer à peine un mois après sa prise de fonction? Le journaliste et fondateur du site gambien Freedom Newspaper répond par l'affirmatif.
C'est très promettant. Le calme revient progressivement à Banjul. Il a déjà nommé la majorité de son gouvernement et j'espère que samedi, qui va d'ailleurs coïncider avec le 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie, il va nommer les ministres restants. Jusque-là, ça se passe bien. La paix est revenue à Banjul et les populations sont contentes.
Le nouveau président gambien a aussi pris des mesures très importantes permettant un retour de Banjul sur la scène internationale. Il a ainsi annulé le retrait de son pays de la Cour pénale internationale, décision prise par son prédécesseur, de même qu'il a annoncé le retour de la Gambie au sein du Commonwealth, la communauté des pays anglophones. Selon Pandari Mbaye, ces décisions vont sortir la Gambie de son isolement sur la scène internationale.
Absolument. Il s'agit d'un développement encourageant. L'ancien président Yahya Jammeh s'était retiré de la CPI et du Commonwealth, espérant échapper à d'éventuelles poursuites, car, comme vous le savez, M. Jammeh a été accusé par certains d'avoir commis toutes sortes de crimes contre l'humanité.
Néanmoins, le journaliste, qui est lui-même exilé aux États-Unis, estime que le sort de l'ex-président reste un mystère. D'autre part, l'actuel chef de l'État semble jouer à l'apaisement envers des compagnons de son prédécesseur en les invitant à l'investiture du président de la Cour suprême la semaine dernière.
Le président aurait dû profiter de cette occasion pour informer les anciens officiels que la paix et la réconciliation passent par la justice et que toute personne qui aurait commis un crime devrait se confesser. C'est pour cela que les gens ne sont pas contents.
Il s'agit donc d'un premier couac pour le nouveau président gambien, mais le journaliste Ndarimbaï estime que cet incident est mineur comparé à la nécessité de réconcilier les Gambiens et faire face aux défis économiques.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, la police a dispersé hier et ce matin à coups de gaz lacrymogène une manifestation de producteurs de cacao qui dénonçait la mévente des récoltes. Le président du syndicat national agricole pour le progrès, Moussa Koné, a déclaré à VOA Afrique que le mouvement de grève est lancé pour la fermeture de toutes les délégations régionales du Conseil Café Cacao. Nathalie Barge l'a joint alors qu'il était encore au plateau avec des milliers de producteurs dispersés en petits groupes.
Il y a des blessés, il y a eu des interpellations. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de notre corporation. Ce matin, on a tenté d'aller dans notre maison commune, qui est la caisse de stabilisation. On a réussi à se retrouver par petits groupes dans le plateau. Et nous sommes encore ici. Et comme la directrice générale du Conseil Café Cacao à charge de l'épargne des producteurs, à un mépris prononcé pour les producteurs, là, elle n'a pas daigné rencontrer les producteurs que nous sommes. C'est vraiment déplorable. Alors, le mot d'ordre de grève est maintenu, ça ne fait que commencer. Nous sommes en train d'organiser nos bases. Nous avons donc demandé aux différentes régions productrices de cacao de se manifester. Et donc, on va aller jusqu'à la fermeture des différentes délégations du Conseil Café Cacao dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et empêcher que leurs différents services aient accès à nos différents villages. Parce qu'on ne peut pas gazer, on ne peut pas violenter des producteurs de café cacao, les acteurs de cette richesse, parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits, ne serait-ce que faire écouler leurs produits. À partir de lundi, il y aura des manifestations éclatées dans toute la Côte d'Ivoire. On va passer même à la fermeture des routes pour empêcher la circulation des produits agricoles vers Abidjan.
Comment cela se fait-il qu'il y ait un problème de vente donc aujourd'hui du cacao en Côte d'Ivoire ?
Il y a le programme de vente anticipée. On a aussi un fonds de réserve. Normalement, si le prix qui a été fixé, qui d'ailleurs n'est pas respecté, alors, au lieu de 1100 francs, les gens payent le cacao en dessous de ce prix. Et donc, comment comprendre qu'on n'arrive pas à écouler le produit parce que les exportateurs ne veulent plus acheter le cacao? Il est même bien séant que ceux qui dirigent le Conseil Café Cacao expliquent cela aux paysans. Il n'y a aucune communication autour de ce blocage et vous arrivez en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan est surchargé de remorques de cacao depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes premier producteur mondial de cacao et ça c'est vrai, mais nous sommes premier pays mauvais organisateur en ce qui concerne la commercialisation du cacao.
Moussa Kone, président du syndicat national agricole pour le progrès, il était joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Ici, aux États-Unis, la semaine politique s'achève sur un air de controverse. Le président Donald Trump continue d'avoir des fissures dans son équipe, notamment des fuites gênantes dans le secteur du renseignement et l'absence d'un conseiller à la sécurité nationale. Également, il est toujours à couteau tiré avec les médias et l'opposition de la justice l'a forcé à envisager une nouvelle version de son fameux décret sur l'immigration. Gabi Chérubin d'Orsil pour une analyse.
Quand Donald Trump et les membres du quatrième pouvoir se retrouvent en un même lieu, soyez-en sûrs, la confrontation est garantie. La conférence de presse d'hier jeudi n'est pas sortie de la norme. Empêtré dans des problèmes divers, cabinet incomplet, rapport tendancieux avec Moscou, projet migratoire mal formulé ou mal intentionné, explication maladroite de ses porte-parole, le locataire de la Maison-Blanche s'en est pris au journaliste qu'il a de nouveau accusé de propager de fausses informations et d'être carrément malhonnête. Le malaise du nouveau président avec la communauté du renseignement est apparu au cours de cette conférence de presse. Trump a promis à maître prise d'agir contre tout fonctionnaire ou analyste responsable de fuites d'informations sur son administration. Eh bien, les fuites sont réelles. C'est vous qui en avez écrit et qui les avez rapportées. Je veux dire que les fuites sont réelles. Vous savez ce qu'elles ont dit, vous l'avez vu. Les fuites sont absolument réelles, a dit M. Trump. Les principales agences de renseignement américaines insistent sur le fait qu'elles continueront à fournir au président la meilleure information possible. Mais les liens entre ces agences et la Maison-Blanche sont tendus comme jamais auparavant. Un des points soulevés hier, ses rapports avec la Russie, dans la foulée de la démission de son conseiller à la sécurité nationale, l'ancien général Michael Flynn. It would be great. Ce serait formidable si nous pouvions nous entendre avec la Russie, juste pour que vous compreniez cela. Maintenant, demain, vous direz que Donald Trump veut s'entendre avec la Russie. Alors c'est terrible. Ce n'est pas terrible. C'est bon. Sélectionné pour devenir conseiller à la sécurité nationale, l'ex-vice-amiral Robert Howard a décliné. Sur son médium favori, Twitter, Donald Trump a fait mention d'une vieille connaissance, le général Keith Kellogg, comme possible remplaçant du général Flynn. Kellogg assure actuellement l'intérim à ce poste. Entre-temps, l'équipe gouvernementale reste incomplète. Par exemple, un groupe de sénateurs républicains a bloqué la confirmation du ministre du Travail. Le président a annoncé son nouveau choix hier devant la presse. Le candidat au poste de ministre du Travail sera M. Alex Acosta, a dit Donald Trump. Tout en défendant son décret sur l'immigration, qui a été bloqué par les tribunaux, M. Trump a annoncé qu'il allait essayer à nouveau. Nous émettrons une nouvelle ordonnance la semaine prochaine qui protégera entièrement notre pays. Là aussi, il devrait s'attendre à de la résistance, à en juger par les récentes réactions à travers le pays. Le président, qui affirme avoir hérité d'un gâchis au plan intérieur et extérieur, promet que son administration fonctionne parfaitement bien. Cependant, les journalistes avaient pas mal d'exemples pour contrer cet argument.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burkina Faso, plus de 150 films vont à la conquête de l'étalon d'or de Yenanga à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Des innovations de taille sont annoncées autour du thème « Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel ». Les détails avec notre correspondant sur place, Issa Napon.
Les professionnels du 7e art veulent réfléchir sur l'industrialisation du cinéma africain en cette édition du FESPACO, d'où la nécessité de se pencher sur la formation aux différents métiers du cinéma, condition cardinale pour exister sur le marché du 7e art, selon le responsable de la commission thème et l'un des rares lauréats burkinabés de l'étalon de Yenenga, Gaston Kabouré.
Il est clair qu'aujourd'hui, l'image est devenue le nouvel alphabet d'aujourd'hui. Et si nous ne formons pas des gens capables de produire avec ce langage à un certain esprit critique, ben nous allons devenir des consommateurs hébétés de la production d'autres imaginaires, d'autres industries. Et je dirais que le FESPACO est justement là pour permettre qu'une expression cinématographique africaine existe dans sa diversité, mais aussi qu'on arrive à bâtir une industrie, parce que c'est un secteur économique et il faut aussi que le cinéma et l'audiovisuel s'enseignent de plus en plus dans les écoles primaires, les lycées et dans les universités.
Une vision vers une économie réelle du cinéma africain défendue par le délégué général du FESPACO, Ardjiouma Soma.
Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le cinéma d'auteur et aujourd'hui il faut que notre cinéma s'inscrive dans une démarche économique et pour attirer le plus de public dans les salles de cinéma, il faut mettre l'accent sur les stars. Et les stars, ce sont les comédiennes et les comédiens.
De grands changements, il y en a à ce FESPACO, notamment la cérémonie d'ouverture qui quitte son stade mythique du Katout pour le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, un peu plus petit. Difficile aussi de ne pas y voir la nécessité de bien verrouiller le dispositif sécuritaire qui est fin prêt. À noter dans les innovations majeures cette année, un tapis rouge déroulé à l'occasion du Celebrity Day. La responsable à l'organisation, Georgette Paré, elle-même star du cinéma africain.
Il s'agira de rendre hommage à l'ensemble des acteurs. Ça va se passer au cours d'une nuit. On permettra aux acteurs de se rencontrer. Alors, on a Isaac de Bankole qui a été annoncé par la Côte d'Ivoire. Il y a le comédien de Nollywood, John Dumelo. Et il y a également le comédien de Jacob's Cross qui s'appelle Fabian et qui a joué le rôle de Bola Abayomi.
Une innovation majeure du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui va attirer cette année plus de 7000 festivaliers avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire, dont une forte délégation est attendue pour partager sa culture à travers plusieurs aspects, dont le village Akwaba, en plein centre-ville de la capitale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Girl, them a run on me body. They really want some of this gyration. So they talking about me. Who don't know gotta use their imagination. They know that they wanna wine with me. But they're so shy. I don't know why. Baby girl, they got to tease and please my eyes. So I want you just one in front of me. On the head and right in front of me. Say you're loving this song, so you're all on the ground.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Souleymane Tarawalé. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Tout de suite, retrouvez L'Amérique et vous, présenté par John Lyndon, une émission consacrée à l'apport des immigrants dans l'économie américaine. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.